Bonsoir à toutes et à tous, c'est vendredi, c'est le Club des Idées du Grain, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Tout un symbole, la dernière loi de la législature adoptée par le Parlement fin février aura concerné la transparence du financement politique. Elle oblige les candidats et les partis à garantir la traçabilité de leurs emprunts. Applicable à partir de 2018, ce texte vient clôturer un quinquennat au cours duquel la moralisation de la vie publique aura été un des grands chantiers législatifs. Il s'inscrit aussi, ce texte, dans une campagne électorale particulièrement riche en la matière. On pense bien sûr à l'affaire Fillon. Le candidat saura mercredi prochain s'il est bien mis en examen à propos des emplois présumés fictifs de sa famille. Mise en examen effective cette fois, celle aujourd'hui d'un deuxième assistant d'une eurodéputée Front National, là encore dans le cadre d'une affaire de soupçon d'emploi fictif. Hier, autre affaire, le parquet général a requis une peine de 2 ans de prison avec sursis à l'encontre du patron de la BPCE, François Pérol, poursuivi pour prise illégale d'intérêt, pour avoir pris la tête d'un groupe dont il avait suivi la fusion comme conseiller de Nicolas Sarkozy à l'Élysée. L'apparence de conflit d'intérêt, c'est d'ailleurs aussi ce qui a poussé un des membres de l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron à démissionner. Jean-Jacques Mourad, membre du groupe de travail sur la santé, avait été rémunéré par les laboratoires Servier. Quant aux soupçons de favoritisme à propos d'un déplacement du même Macron à Las Vegas lorsqu'il était ministre de l'économie, le parquet national financier attend plus d'informations pour d'éventuelles suites. Alors toutes ces affaires ne se valent pas, je n'en ai cité que quelques-unes, mais elles posent la question de la moralisation de la vie politique. Alors jusqu'où pousser l'exigence de probité ? Eh bien, c'est le thème de notre discussion ce soir avec 4 membres du club, Ludivine Bantigny, Brice Couturier, Philippe Manière et Sylvain Kahn. Bonsoir à tous les 4.
Bonsoir.
Je ne vais pas vous présenter avec vos CV comme à chaque fois. Tout le monde vous connaît désormais et je sais que vous attendez avec impatience notre petite séquence d'ouverture de l'émission, le sujet du soir vu par Jean-Christophe Francis.
L'histoire d'une chute à présent, celle de Thomas Thévenoud, étoile montante du PS par qui le scandale arrive, est victime de phobie administrative. C'est comme ça qu'il explique avoir oublié de payer ses impôts. Pathologie apparemment très grave, PV, loyer et même kiné. Il a du mal à régler ses factures.
C'est cet après-midi que le ministre de l'économie, Hervé Guémard, a rendu publique sa décision de démissionner après 9 jours d'explications laborieuses et de vérités approximatives sur son appartement de fonction et sa fortune personnelle.
Entre 2002 et 2004, Claude Guéant est directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur. Il décide de puiser dans l'enveloppe des frais d'enquête de la police pour les redistribuer à lui-même et à des membres de son cabinet en guise de complément de salaire.
Le tribunal de grande instance de Lyon aura à connaître à partir de demain de l'affaire Urba Graco, du nom de cette nébuleuse de sociétés de conseil qui ont permis le financement du Parti Socialiste dans la région marseillaise avant 1990. Parmi les 50 prévenus, des hommes politiques, des chefs d'entreprise.
Accusé par Mediapart d'avoir eu un compte en Suisse, Jérôme Cahuzac savait que les députés exigeraient des réponses. Cet après-midi dans l'hémicycle, il a de nouveau nié toutes les accusations portées contre lui.
Gérald Gérin a été tour à tour chauffeur, porte-serviette et majordome du fondateur du Front National. Mais selon Mediapart, il aurait également servi de prête-nom pour un mirobolant compte en Suisse au sein de la banque HSBC. 2,2 millions d'euros, dont 1,7 million en pièces et lingots d'or.
Le train de vie des époux Balkany n'en finit pas d'intéresser la justice. L'intouchable député-maire a perdu son immunité parlementaire et depuis 3 mois, les dossiers s'accumulent.
Voilà quelques affaires plus ou moins récentes impliquant des politiques. On aurait pu continuer comme ça, évidemment, relativement longtemps. On en a choisi quelques-unes avec Jean-Christophe Francis. Brice Couturier, finalement, je vais vous poser la question telle qu'on la pose ce soir. Jusqu'où pousser l'exigence de probité ? Est-ce que vous considérez que les élus, les politiques, doivent être toujours irréprochable, et comment mesurer peut-être cette irréprochabilité?
Vous savez, j'aime bien apporter à cette émission de bons livres. Alors j'en ai apporté un excellent, c'est le Pierre Rosanvallon, le dernier en date, c'est Le Bon Gouvernement. Et son dernier chapitre de cet excellent livre s'intitule précisément Intégrité. Pierre Rosanvallon, dans ce dernier chapitre, nous dit qu'il y a en fait un passage, on est passé d'une politique qui était la politique des programmes, ce qu'il appelle une politique des personnes. Donc il y a une personnification des programmes politiques et ça pose problème. Et voilà ce qu'il dit Pierre Rosanvallon, je vais vous en faire une courte lecture. À l'âge de la transparence, c'est le comportement des personnes qui a pris une importance déterminante. Faute de savoir ce que le pouvoir doit positivement faire, on se soucie surtout dorénavant de ce qu'il devrait être. Alors voilà, c'est un peu le problème que nous rencontrons au cours de cette campagne électorale. Dans 2 mois, nous devrons décider de la personnalité qui occupera la présidence de la République, comme on sait, clé de voûte de nos institutions. Or, le pays est dans une situation absolument catastrophique. Nous avons 5 788 000 inscrit à Pôle emploi à la date d'aujourd'hui. Nous avons une dette publique de 97% du PIB qui ne cesse de s'accroître, une compétitivité de notre appareil productif qui est délabré puisqu'on vient de voir que le déficit du commerce extérieur en janvier a atteint son niveau historique avec 7,9 milliards d'euros de déficit, 48 milliards sur l'ensemble de l'année 2016. Le terrorisme islamiste qui a coûté la vie à 239 de nos concitoyens au cours des 2 années dernières.
Et donc vous voulez dire qu'il y a des sujets bien plus graves que le voilà.
La multiplication des territoires perdus.
J'arrive pas à faire le lien pour l'instant.
Vous allez le voir, vous allez le voir. Vous avez compris, programme et personnalité. Nous avons la multiplication des territoires perdus de la République, et ce que le président de la République appelle lui-même la partition du pays. La crise existentielle de l'UE à la lumière de ce qui est en train de se passer aux États-Unis et le danger pour notre sécurité d'avoir un Donald Trump à la tête de l'Alliance Atlantique. Nous devrions avoir des débats de fond sur ces problèmes. Au lieu de cela, nous avons eu 2 semaines de perdus sur de fausses questions, à savoir l'affaire Fillon. Depuis 2 semaines, comme j'essaie de le faire comprendre dans une tribune du Figaro qui était parue la semaine dernière, depuis 2 semaines, les médias nous amusent avec 2 questions. Jusqu'à quand le candidat de la droite et du centre va-t-il tenir avant de renoncer à son mandat? Et qui va le remplacer? 2 semaines de perdu alors que ces élections présidentielles devraient être absolument capitales et dont on devrait s'intéresser au programme. Au lieu de cela, on s'intéresse aux personnalités. 2 semaines de perdu. Alors que la campagne commence sur les programmes et pas seulement sur les personnes. Je crois que Rosan Volant a raison, il fallait s'intéresser davantage aux personnes, au programme qu'aux personnes.
Il fallait davantage s'intéresser au programme qu'aux personnes. 2 semaines de perdu, ça vous inspire quoi ça, Sylvain Cannes? Est-ce que ce sont si ce n'est de mauvaises questions, en tout cas des questions secondaires par rapport aux problèmes que connaît la France, celles qu'on pose ce soir qui se posent à travers notamment l'affaire Fillon?
Ce que ça m'inspire, c'est... J'ai l'occasion, grâce à vous, Hervé Gardet, de le dire une fois de plus dans ce club, c'est que la Ve République, et donc le régime semi-présidentiel, est davantage devenu un problème qu'une solution. Parce que je pense que cette personnalisation à laquelle il était fait référence à l'instant est d'autant plus importante, et l'intérêt pour les personnes plutôt que les programmes est d'autant plus important que le président de la République est ce qu'il est sous la Ve. Je crois que c'est de moins en moins adapté. Et de mon point de vue, l'affaire Fillon le montre. La deuxième chose, moi, qui me frappe énormément, c'est la manière dont François Fillon, qui jusqu'à présent était, on va dire, un leader politique de la droite républicaine, s'est mué en leader presque illibéral, puisqu'il est très très critique envers l'état de droit. Il s'est mis quand même à appeler les gens à manifester contre la justice de la République française.
Bon, il est revenu sur ses déclarations ensuite.
Oui, bien sûr.
Voilà, c'est pas du tout le motif de cette manifestation.
Non, d'accord, il est revenu, mais n'empêche qu'il l'a quand même fait. Ça veut dire que le même week-end, on avait 2 grands meetings, l'un Fillon, l'autre Le Pen, où on avait donc 2 leaders qui, à eux deux, représentent quelque chose qui est entre 35 et 45% de l'électorat, appelant quand même à se défier de la justice et en appelant au vote populaire contre les institutions et la séparation des pouvoirs. Et je trouve ça très, très inquiétant. Alors, effectivement, si l'exigence de probité, pour reprendre le titre de votre émission, révèle cela, bon, ça veut dire que on est mal barré.
Ludivine Martini.
Moi, je partage pour partie ce qui a été dit par l'un et par l'autre, par Brice et par Sylvain, mais notamment sur la question de la perte de temps. Alors moi, je ne pense pas du tout qu'il fallait ne pas parler de l'affaire Fillon, pas du tout. Enfin, plus que de toutes les autres affaires, je ne pense pas non plus que ce soit uniquement lié à la présidentialisation du système, même si je rejoins Sylvain Cannes sur ce problème absolument fondamental. Mais disons que, comme ça a été montré d'ailleurs dans le montage, c'est une corruption, une concussion, des affaires qui vont bien au-delà du système présidentiel en soi. Et comme historienne, en fait, ça m'intéresse on va peut-être pas remonter au 14e siècle avec Pierre de Rémy qui était le trésorier des rois de France et qui était lui-même un grand corrompu. On pourrait pas penser aussi à l'affaire du surintendant Fouquet, mais en réalité ces affaires de complicité entre le milieu financier, les milieux économiques et les milieux politiques sont historiquement très, très profonds. Sous la Troisième République, il y avait eu des scandales qu'on connaît pour la plupart, hein, le trafic des décorations sous Jules Grévy, le scandale de Panama qui impliquait des gens, y compris comme Clémenceau, l'affaire Stavisky, etc. Ce qui est frappant, alors là, pour rejoindre la question de la Ve République, c'est que ces affaires se sont en effet multipliées, qu'il s'agisse d'attribution de marchés publics, de commissions et rétrocommissions, faux et usage de faux, les délits d'initiés, les fausses factures, les faux chargés de mission, les emplois fictifs, les frais de bouche, etc. Et en fait, ce que ça montre, moi, je n'aime pas du tout l'expression « tous pourris ». D'abord parce que ceux qui l'emploient, notamment au Front National, le sont aussi, on le voit bien. Et puis, par ailleurs, tous les responsables politiques ne sont pas pourris. Justement, quand on s'intéresse au niveau communal, par exemple, on voit bien l'intégrité et la sincérité de nombre d'élus. Ce n'est pas le problème. Je pense que le problème, c'est une question de déconnexion radicale entre ceux qu'on a encore appelés tout à l'heure dans le journal les grands candidats. Mais oui, mais à force de toujours parler des grands candidats, évidemment, on ne va pas parler des petits. Vous voyez, c'est une espèce de système cyclique qui pose un vrai problème. Et c'est là qu'est, à mes yeux, la vraie perte de temps. C'est qu'on ne parle que des personnalités toujours en vue, qui elles-mêmes nous parlent assez peu de leur programme, mais jamais de ce qui fait le politique sur le fond. Et on pourra y revenir sur la question du bon gouvernement.
Philippe Manière.
Non, je pense qu'il faut commencer par dire que c'est une question qui est bien plus complexe qu'elle en a l'air. Parce qu'évidemment, dans l'exposé des motifs, c'est très simple. C'est-à-dire que ce serait mieux que les élus fussent irréprochables, en tout cas honnêtes. Et c'est très important parce que moi je ne crois pas que ce soit du tout secondaire, parce que l'exemplarité est requise pour que les gens croient ceux qui leur parlent au nom du pouvoir, et qu'il est important que ceux qui parlent au nom du gouvernement soient entendus, parce que sinon, eh bien, tout simplement, la démocratie représentative ne fonctionne pas bien. Donc je pense que c'est un sujet qui est très important, je pense que c'est un sujet qui est très complexe, et je pense que c'est un sujet qui est absolument rempli de paradoxes. J'en prends juste un. C'est quelque chose qui est assez connu par les sociologues, que quand vous ouvrez un commissariat, souvent vous voyez grimper la délinquance dans les statistiques. Pourquoi ? Parce que quand il y a un commissariat, les gens vont porter plainte, et donc il y a plus de plaintes, et donc on a le sentiment qu'il y a plus de délinquance. Évidemment, il y en avait avant, mais elle n'était pas vue, parce que les gens ne portaient pas plainte, parce que le commissariat n'était pas là. Là, exactement de la même manière, mon sentiment, je ne suis pas un chercheur spécialisé, mais mon sentiment vraiment très sincère, c'est que on a une classe politique qui est probablement plutôt moins corrompue que ce qu'elle était par le passé. Pourquoi ? Parce qu'il y a des tas de règles qui n'existaient pas et qui existent. Et parce que la punition médiatique qui s'abat sur les gens qui sont convaincus d'avoir piqué dans la caisse, elle est méritée, cette punition médiatique est tellement considérable que...
Elle n'est pas que médiatique, d'ailleurs.
C'est comme les grandes marques de yaourt ou les grandes marques de voitures. Ces gens-là ne sont pas plus vertueux qu'avant, mais il y a tellement de choses en jeu. S'il y a une voiture qui déraille parce qu'il y a quelque chose qui était mal vissé, ou parce qu'il y a un yaourt dans lequel il y a un morceau de verre, qu'ils font très très attention. Donc il y a, à mon avis, plutôt un comportement plus vertueux aujourd'hui qu'il y a 50 ans. La différence, c'est que, vous avez la télévision, vous avez Internet, vous avez les lois sur la transparence, vous avez des règles qui sont très faciles à violer par des gens malhonnêtes et parfois par des gens de bonne foi. Et donc on a paradoxalement le sentiment d'une espèce de montée de la malhonnêteté des élus qui est très probablement mal fondée. Je suis à peu près convaincu qu'il y a 50 ans, où il y avait beaucoup moins de règles, beaucoup moins de télévision, beaucoup moins d'Internet par définition, beaucoup moins de transparence, on avait au moins autant de malhonnêteté. Et donc le problème qu'on est en train d'évoquer ce soir était au moins aussi criant, mais c'était beaucoup moins vécu c'était beaucoup moins ressenti, et donc c'était moins un problème démocratique.
Oui, parce qu'il y avait des pratiques qui n'étaient pas considérées comme des affaires telles qu'elles le sont aujourd'hui, parce qu'évidemment les mœurs changent, et il y a des choses qu'on acceptait autrefois qu'on n'accepte plus.
On ne va pas citer de noms, certains sont encore vivants, la plupart sont morts, mais par exemple au Sénat il y a toujours eu deux ou trois personnages, par ailleurs très roboratifs, généralement spirituels, qui recevaient très généreusement, dont tout le monde savait qu'ils étaient plus ou moins des trafiquants d'influence. Ça faisait un peu rire. C'était pas connu de tout le monde, c'était le fonctionnement de la République. Très sincèrement, je pense que ça n'existe pratiquement plus. Mais il y a toutes sortes de choses qui apparaissent aujourd'hui parce qu'il y a cette exigence, encore une fois, qui est fondée, hein, de transparence, d'honnêteté. Et donc il y a ce croisement entre les comportements et les exigences qui aboutit à une impression trompeuse. Il faut bien sûr que les gens soient honnêtes, ils ne le sont pas assez, mais je crois qu'il ne faut pas tomber dans l'excès succès, considérant à penser que tout fout le camp et qu'on a des gens de plus en plus malhonnêtes. Je crois que ça, c'est mal fondé.
Mais alors, pour sortir justement un petit peu de la campagne, est-ce qu'il faut, à partir de ce constat, se réjouir que ces affaires-là, qui aujourd'hui auraient peut-être été, auraient sans doute été masquées, sortent, et considérer que c'est peut-être la preuve qu'il y a des outils, notamment des outils juridiques. Il y a eu, au fil des affaires, justement, un certain nombre d'avancées législatives qui ont été faites. La dernière, ça a été la loi pour la transparence de la vie publique suite à l'affaire Cahuzac, avec une haute autorité de la vie publique, pour la transparence de la vie publique. Voilà, haute autorité pour la transparence de la vie publique. Est-ce que finalement, ça, au moins, il ne faut pas s'en réjouir, de se dire, bah voilà, aujourd'hui, il y a des choses qui ne sont plus acceptables et qui peuvent être punis, Brice Couturier.
Ben oui, on a eu au cours de cette législature deux lois importantes sur la punition, le fait de traquer la corruption, les lois Sapin 2, qui prévoient des sanctions pénales intéressantes, parce que surtout dans le domaine de la corruption internationale, il y avait une espèce on passait assez volontiers en France, parce que nous sommes dans une situation concurrentielle, sur le fait que pour obtenir des marchés à l'étranger, il était courant de remettre des enveloppes qui donnaient lieu parfois à des rétro-concessions, comme on sait, au profit donc de ceux qui avaient corrompu les employés de l'administration publique étrangère. Il y avait cette habitude de passer des contrats en graissant la patte. On sait très bien qu'un certain nombre de pays du Sud sont archi-corrompus et qu'on ne peut pas obtenir de marché sur place si on ne pratique pas cette corruption. Et je pense qu'une des grandes avancées de la loi Sapin qui a été récemment votée, c'est que dorénavant, on peut punir quelqu'un, une entreprise privée, qui aurait donné des comptes, pour obtenir un contrat, aurait graissé la patte, comme on dit vulgairement, des décideurs locaux de ce pays du tiers-monde. Ça nous met dans une situation difficile, parce qu'il faut savoir que d'autres pays, eux, n'ont pas des réglementations aussi sévères que les nôtres, et ne se gênent pas, si vous voyez ce que je veux dire, pour obtenir au détriment de nos entreprises des marchés à l'étranger. Mais enfin, je pense que c'est une bonne chose et qu'on a beaucoup progressé, effectivement, dans ce domaine, au cours de la législature qui s'achève.
Sylvain Kahn, sur cette transparence peut-être et sur cette idée qu'il y a quand même des lois qui organisent justement le fait de savoir ce qui est légal en gros et ce qui n'est pas. Et en tout cas, est-ce que c'est seulement la loi qui doit dicter ce qui relève de la probité et ce qui n'en relève pas, ou bien est-ce qu'on n'est pas aussi aujourd'hui dans un jugement qui est aussi un jugement moral? Je reviens juste un instant sur l'affaire Fillon, c'est-à-dire on dit que voilà, le fait d'avoir embauché son épouse, même si l'affaire juridique elle porte sur autre chose, mais lui dit c'est quelque chose que j'ai dû arrêter parce que ça n'était plus accepté aujourd'hui. C'est-à-dire on voit bien que la demande de probité peut-être elle va au-delà de ce qui est du domaine du légal ou de l'illégal.
Ben, comme très souvent on s'agit d'avancées législatives, enfin je dis avancées au sens neutre, hein, disons. Soit on considère que la loi et que le législateur vient finalement sanctionner juridiquement une évolution de la société, ce qui va dans le sens de ce que vous venez de dire, Hervé Gardette, soit on considère qu'il y a nouvelle législation parce que le problème sur lequel on légifère est toujours là, encore là, voire qu'il est amplifié. Bon, ce qui est certain, me semble-t-il, c'est qu'aujourd'hui, il y a une exigence de probité qui est très forte de la part, alors peut-être pas de toute la société, mais en tous les cas de la part d'un certain nombre de secteurs de la société, et qui, me semble-t-il, est à proportion du creusement des inégalités, qui, depuis 30 ou 40 ans, est très réel, très palpable, très tangible, et donc du coup, cette demande de probité est d'autant plus importante que les partis politiques qui sont au pouvoir depuis une trentaine d'années disent tous qu'ils vont avoir un programme qui va permettre de réduire les inégalités ou de résorber le chômage dont parlait Brice Couturier tout à l'heure, et ne le font pas. Donc à partir de là, l'absence de probité est non seulement une absence de probité, mais est aussi vécue, on va dire, comme une espèce de trahison politique et sociale. Et ça, je crois que, sans doute qu'au moment des Trente Glorieuses, la question pouvait être posée moralement, mais on pouvait se dire que peut-être dans le concret de l'état social et économique de la société, c'était moins grave. Aujourd'hui, il y a aussi ça. Et d'ailleurs, Ludivine Bantini faisait référence tout à l'heure à des précédents historiques. On sait bien que cette accusation de tous pourris, elle a été particulièrement forte dans les années 30, et exploitée par des ligues ou des mouvements politiques à l'époque, et elle a aussi été particulièrement forte au moment du boulangisme. Donc, cette exigence de probité, bien entendu, elle ne prend pas la même configuration selon la situation économique et sociale.
Philippe Manière, je vous voyais réagir sur la corrélation que
oui, non, mais d'abord parce que on a tendance à considérer que c'est une évidence. Je conteste moi formellement, enfin sur la base de chiffres, que les inégalités augmentent en France. Alors on voit un certain nombre de gens extrêmement riches qu'on ne voyait pas avant. Ils sont dans un nombre tellement petit que ça n'a aucune signification statistique. Bien sûr, ça jette un élément nouveau dans le débat du point de vue de la symbolique, mais c'est tellement misérablement petit en nombre que ça n'a pas d'importance.
Je sais pas si misérablement est bien choisi.
Misérable au sens, vous voyez ce que je veux dire. Donc après, on peut toujours discuter, mais il n'y a pas d'augmentation. Je le dis d'autant plus tranquillement qu'il y a des tas de pays de l'OCDE. Donc c'est vrai qu'il y a une augmentation des inégalités dans un certain nombre de grands pays un peu comparables aux nôtres. C'est absolument vrai aux États-Unis, c'est absolument vrai au Royaume-Uni. On est dans un niveau d'inégalité qui ressemble pratiquement au niveau qu'il y avait dans les années 20.
Il y a quand même eu un rapport très récent de France Stratégie qui évoquait une société d'héritiers pour justement prendre acte de cette société. Justement,
mais quand on prend les décisions, je suis d'accord, mais c'est un autre sujet. C'est le sujet de la mobilité sociale. C'est pour ça que moi je reprendrai assez volontiers le raisonnement que disait Sylvain tout à l'heure, mais pas au titre des inégalités croissantes, au titre de la diminution des opportunités de s'arracher à ces déterminismes de naissance. Ça, oui, c'est purulent en France. C'est un fait, c'est grave, c'est très contrariant et ça rend les gens particulièrement sensibles sur les sujets de probité, ce qu'on peut tout à fait comprendre. Mais encore une fois, il ne s'agit pas d'accroissement des inégalités, il s'agit de diminution des opportunités de s'arracher à ces déterminismes de naissance. Alors bon, je voudrais juste parler...
On est sorti un petit peu du sujet là, cela
dit. Reprenons les choses. Si par exemple il suffisait qu'une société fût égalitaire pour que la probité soit la malhonnêteté soit tolérée, ça serait quand même contrariant. Donc il ne faut pas considérer que c'est admissible que on puisse mesurer la gravité. Vous aviez tendance à dire, Sylvain, que on peut comprendre qu'il y a une sensibilité accrue à raison de la croissance des inégalités. Moi, je dis qu'il n'y a pas de croissance des inégalités. Et je dis que même si les inégalités n'existaient pas du tout, on ne pourrait pas pour autant admettre la malhonnêteté. Mais je voudrais juste revenir sur un point, puis je vais juste l'aborder parce que je vais laisser parler les autres, mais qui me semble important et sur lequel je pense qu'il faut qu'on réfléchisse 5 minutes. C'est sur la rémunération des élus. À aucun moment, on ne peut évidemment, je vais être bien entendu là-dessus, justifier les éléments de malhonnêteté de tel ou tel élu par le fait qu'ils sont insuffisamment ou faiblement payés par comparaison à tout ce qu'on voudra, par comparaison à des gens qui ont des responsabilités comparables dans le privé, par comparaison à ce qu'on peut trouver dans d'autres pays, etc. C'est un fait que nos élus sont généralement modérément payés par rapport à ce qu'on trouve comme élément de comparaison, à peu près tout ce qu'on peut imaginer. Donc on ne peut pas dire que...
Ça dépend
que ça justifie la malhonnêteté.
Ça dépend si vous parlez des parlementaires ou des élus locaux. Parce que quand on est conseiller municipal...
Non, je parle de ceux dont on parle ce soir. Franchement, je ne crois pas que beaucoup de gens autour de la table ni parmi nos auditeurs envisagent qu'on soit en train de parler de la probité d'un élu qui n'a pas de rémunération dans une des 36 000 petites communes de France. On parle des gros élus visibles. Sinon, on ne serait pas là pour en parler à l'occasion de la présidentielle. Ces gens-là, par rapport à leurs homologues dans le privé, par rapport à leurs homologues à l'étranger... Et même si les sommes qu'ils gagnent peuvent paraître importantes par rapport au salaire moyen des Français, ne gagnent pas beaucoup. Et donc, ça n'explique évidemment, et a fortiori, ça ne justifie pas complètement leur comportement, mais je pense qu'on aurait intérêt malgré tout à se pencher sur ce sujet. Un élu un peu visible qui vit dans la capitale, parce qu'un élu un peu visible vit dans la capitale, et qui n'est pas héritier, ne peut pas avoir le train de vie qui est requis pour faire son métier d'élu avec une surface sociale importante, avec ce qu'on paye un parlementaire. Je ne dis pas qu'il faut le payer plus. Je dis simplement que ça pose un problème parce que ça veut dire que si vous n'êtes pas riche, on revient au problème de l'héritage, vous ne pouvez pas être élu sauf à vivre une vie sacrificielle, pas un élu important. Voilà.
Ouais, je vous renvoie à la réécoute d'une émission qu'on a fait il n'y a pas très longtemps, il y a moins d'un mois, qu'on avait intitulée « Les élus sont-ils suffisamment payés ?» qui portait justement précisément là-dessus. Et en tout cas, le parlementaire qui était là considérait que lui, il y avait largement de quoi faire pour assumer sa fonction. Mais bon, je vous renvoie à la réécoute de cette émission et je donne la parole à Ludivine Bantini.
Oui, je voulais revenir en effet dans le prolongement de ce qui vient d'être dit par Philippe Manière sur la question de la probité comme exigence éthique du politique. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une question d'illégalité, parce que là on a évoqué des scandales politico-financiers et en effet il y en aurait vraiment tout un cortège, mais la question c'est plus celle de l'adéquation entre une fonction et un train de vie précisément. Alors je raconte très très rapidement une anecdote que j'ai vécue, une anecdote personnelle. J'étais il y a quelques années, je ne cite pas de nom, j'étais membre d'un festival de cinéma. Voilà. Et pour la première, donc, chapeauté par un président de conseil régional. Et pour la première fois de ma vie, j'ai compris cette déconnexion sociale de certains grands élus par rapport au, à notre monde quotidien. C'est-à-dire, c'était château, hôtel de luxe, chauffeur, se faire servir en permanence, les grands restaurants, les grands crus. Et ceci, non, moi je l'ai vécu pendant 4 jours et ça m'a bien suffi, ça m'a vacciné définitivement, parce que je trouve ça insupportable de se faire servir de cette façon et de mener ce genre de vie. Pour moi, c'est le contraire de l'éthique, justement, du politique. Mais en tout cas, l'élu en question, c'est quelque chose qui vit quotidiennement. Voilà, bon,
ça, c'est une première chose. Que c'est quelque chose de moins en moins supportable, justement, aujourd'hui.
Mais c'est pas que ça soit de moins en moins supportable, c'est que de manière générale, et ça pose la question, en effet, du bon gouvernement, tel que l'évoquait Brice Couturier via Pierre-Rosan Vallon, mais moi je vais décaler un tout petit peu le propos, et qu'on ne m'accuse pas de faire une espèce d'éloge d'expérience utopique. Je voudrais parler de, justement, c'est intéressant que vous parliez, Brice, du bon gouvernement, parce que c'est comme ça aussi que le gouvernement zapatiste parle de ses pratiques. Voilà, ça se passe au Chiapas, dans une région du Mexique, et c'est un territoire qui concerne à peu près l'équivalent de la Belgique. Bon. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est vraiment une toute autre conception du politique. C'est-à-dire que le politique est une charge, cargos. C'est ce qui est appelé aussi au Chiapas, mandar obedeciendo, c'est-à-dire le pouvoir qui obéit. C'est-à-dire qui obéit en permanence. C'est des charges qui sont rotative, c'est-à-dire qu'on est responsable pendant 2 mois, sans aucune rémunération, sans aucune gratification. Donc on est dispensé de certaines tâches qu'on va reprendre 2 mois plus tard. C'est aussi un temps beaucoup plus lent du politique, etc. Donc c'est une autre vision qui est fondamentalement plus portée sur la justice sociale, évidemment, plus portée sur des phénomènes de solidarité, etc. Mais moi, je pense que si on parlait de perte de temps, encore une fois, oui, tout le temps occupé dans les médias, par les affaires, par la personnalisation, si on parlait d'autres projets tels qu'ils se réalisent. Moi, je pense, alors j'en fais pas non plus une panacée, mais je pense au président uruguayen, je crois que maintenant tout le monde en a entendu parler, enfin il n'est plus président depuis 2015, mais José Mujica,
qui vivait très modestement.
Qui vivait très modestement et qui, en fait, mais au-delà de la manière dont il vit, dans une petite ferme, il a une sorte de philosophie politique qui mérite vraiment une discussion. C'est-à-dire que sortir de l'argent, sortir de la compétition, vivre davantage en harmonie, il insiste beaucoup sur la question des relations humaines. Encore une fois, voilà, je ne vante pas spécialement la politique qu'il a pu mener. C'est quelqu'un qui a été torturé par la dictature, qui a été prisonné pendant 15 ans, etc. Mais ce sont des questions qui me semblent fondamentales et qui, malheureusement, sont trop absentes du débat, en tout cas médiatique, officiel. Elles sont présentes, ces questions, bien davantage dans des lieux qui sont tout aussi politiques.
Et qui renvoient finalement à la question de savoir comment aussi on organise la politique et pas seulement comment on sanctionne finalement quand il y a des dérives. Brice Couturier.
Alors un mot, moi aussi, c'est le mot crédit. Hein. Le mot crédit, c'est créditum, c'est dans Rosan Vallon, je l'ai trouvé. C'est Philippe de Comines qui l'a inventé pour dire le crédit, c'est-à-dire le poids dont dispose un élu politique, l'attribut de pouvoir conditionnant sa capacité d'influence et sa marge de liberté en tant que gouvernant. Le crédit, c'est indispensable pour les politiques, parce qu'aujourd'hui, il y a une remise en cause, on le sait bien, de l'autorité politique de tous les côtés. Celui qui perd son crédit, celui qui perd la confiance de ses mandants, de ses élus, de ses électeurs, pardon, perd la capacité de décider. Or, ce à quoi nous assistons aujourd'hui, il me semble, c'est un déficit croissant de crédit de la part de la classe politique, un décalage de plus en plus énervant entre un État et des pouvoirs qui ne cessent de nous faire la leçon, qui cherchent à nous rendre vertueux, qui cherchent à corriger nos mauvais penchants, ce que Alain Gérard Slama a appelé l'angélisme exterminateur, des gouvernants qui, comme le dit Pierre Manant, nous surveillent bien davantage qu'ils ne nous représentent, j'aime bien ça, et le comportement d'une classe politique qui s'affranchit, elle, de la décence ordinaire. C'est exactement ce que vient de décrire Ludivine Bantini. On a tous effectivement l'expérience d'avoir approché certains politiques, je veux pas généraliser, mais certains politiques qui se comportent effectivement comme de grands féodaux locaux, qui se croient absolument au permis et qui ont rompu avec la décence ordinaire. Et que ces gens viennent nous faire la leçon à nous, avec nos faibles moyens, c'est absolument insupportable. Donc il faudrait probablement qu'on mette fin à ce hiatus insupportable, encore une fois, entre le discours ambiant et les modes de vie de ceux qui nous les tiennent. Philippe Manière.
Moi, je suis pas insensible du tout à ce que dit Ludivine sur la frugalité des élus. Hein. D'ailleurs, c'est pas la peine d'aller bien loin. C'est même pas la peine d'aller en Uruguay ou que sais-je pour regarder comment vit la chancelière. Elle rentre tous les soirs en Allemagne. Elle rentre tous les soirs dans son appartement loué qui est au coin d'une rue assez anonyme à Berlin. Regardez au Danemark, ils vont bosser à vélo et c'est pas parce qu'ils veulent montrer qu'ils sont les amis de la planète. C'est juste parce qu'ils prennent des vélos parce que c'est plus malin de prendre un vélo.
Bon, on a l'impression que c'est ça, totalement impossible.
Oui,
ça,
alors
pour
pourquoi
la France.
C'est impossible pour plusieurs raisons. Certaines ne nous font pas honneur. C'est l'héritage. Je crois qu'il se passe pas nos débats sans qu'on évoque cette question. L'héritage monarchique de la République française, hein, c'est-à-dire que il y a et c'est pas seulement une habitude du souverain, des souverains, c'est-à-dire ceux qui nous représentent dans la République monarchique. C'est aussi, dans une certaine mesure, une attente des gouvernés. Il faut pas sous-estimer le fait que moi j'ai vu ça souvent, y compris en région, quand on voit des comportements qui peuvent nous sembler déviants, exactement au titre de ce que vous disiez, Ludivine. Il y a bien sûr une forme de ressentiment, d'énervement, mais pas que. Il y a aussi une sorte de fierté de se voir représenté par une. Enfin, franchement, enfin, rappelez-vous, Fraîche en ses palais, hein, je sais plus comment il appelait ça.
Georges Fraîche, vous voulez parler de l'ancien maire de Montpellier.
Mais on a vu ça dans beaucoup d'endroits. Et dans le fond, les gens sont très ambivalents sur ce sujet. C'est-à-dire qu'à la fois, ils sont pas très contents de voir que les puissants vivent d'une manière si déconnectée de leur propre mode de vie, et en même temps, ils vivent un peu par procuration cette espèce de munificence et de vie de souverain, parce qu'il y a cet héritage monarchique dans notre code génétique à tous, je crois. Donc, je ne dis pas que c'est bien. Je dis qu'il faut tenir compte que la France, c'est aussi ça. Donc, la France, et je le dis un peu la mort dans l'âme, parce que moi, j'ai plus un tempérament scandinave sur ce sujet, mais la France, ça n'est pas le Danemark et ça n'est pas l'Allemagne, pour des raisons historiques, culturelles et évidentes. Donc il ne faut pas croire qu'on a affaire à des gens qui abusent face à un peuple victime. D'ailleurs, enfin, pardon pour cette évidence, mais on les élit, ces gens-là. On peut les éliminer une fois qu'ils ont péché. Et ça n'est pas ce que montre l'histoire du vote. Hein. Très souvent, vous avez des gens qui sont notoirement des gens qui se gobergent. J'y vais à la serpe, pardonnez-moi, et qui sont très régulièrement réélus dans la joie et la bonne humeur. Donc, c'est un sujet qui est plus compliqué qu'il y paraît, encore une fois.
Sylvain Kahn.
Oui, ceci étant, pour les éliminer, pour les faire sortir du jeu politique, l'affaire Fillon, comme on l'appelle, montre que c'est pas si facile que ça. C'est-à-dire qu'on a quand même aussi des élus qui s'accrochent et qui s'accrochent et qui y arrivent. On pourrait parler des Balkany. C'est vrai qu'ils ont été réélus.
Voilà, c'est surtout à eux que je pensais.
Voilà, mais ils se sont aussi bien accrochés. Et puis, même si je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit sur l'Allemagne, le Danemark, etc., pour autant, il y a aussi, bien entendu, de la corruption, de la concussion dans ces différents pays-là. Et j'ai même envie de dire que au Danemark ou en Suède, il peut y avoir un autre effet paradoxal, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus, on va dire, d'austérité ou de modestie dans la manière de pratiquer le pouvoir, mais ça n'empêche pas que, peut-être de manière plus discrète, il puisse y avoir là aussi des scandales de corruption qui finissent par sortir. Donc, on est
franchement dans le monde politique, c'est pas très courant dans ces pays-là.
Hein. C'est vrai.
Vous avez sûrement raison dans le privé. Dans le privé, il y a moins de scandales qui sont très spectaculaires quand ils sortent.
Quand ils sortent.
Dans le public, sincèrement, je crois qu'on peut dire qu'il y a pas beaucoup de scandales de corruption en Scandinavie ou en Allemagne.
Hein. C'est peut-être lié aussi de manière qui est peut-être là aussi un peu paradoxale à la composition socio-professionnelle des élus en France. Hein, c'est-à-dire que honnêtement, j'ai pas les chiffres précis en tête, hein, donc je vais sûrement dire des bêtises. Mais on sait par exemple que les ouvriers sont très très sous-représentés parmi les élus, que ce soit à l'Assemblée nationale ou dans les conseils municipaux ou régionaux. On sait, je sais pas si c'est à l'inverse, mais à contrario, que les personnes qui sont fonctionnaires sont très surreprésentés.
Et vous voulez dire qu'ils sont plus corruptibles que les autres ? Je vous suis mal, là.
C'est plutôt... Non, je veux pas dire qu'ils sont plus corruptibles, c'est pas ça que je veux dire, mais ce que je veux dire, c'est que il y a par rapport à, disons, il y a un problème de représentativité sociologique, ou je sais pas comment dire, socio-professionnelle des élus, et cette espèce de décorum dont on parlait tout à l'heure, d'habitude, on va dire, d'un certain nombre de pratiques, par rapport, encore une fois, à la tradition monarchique qui était évoquée. La tradition monarchique, c'est pas seulement la tradition du roi, c'est aussi une espèce de tradition très ancienne, enfin en France en tous les cas, pas seulement en France, mais notamment en France, disons, d'une certaine manière, du train de vie de l'État. Voilà. Bon, alors effectivement, vous avez tout à fait raison, Brice, faut surtout pas que je fasse ou que je donne l'impression de faire des raccourcis. Mais pour prendre un autre exemple anecdotique, je suis géographe, en termes de lieu et de place. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'Élysée qui est un lieu de pouvoir extrêmement munificent. C'est-à-dire qu'à Paris, il y a plein de ministères. Et ce n'est pas seulement le bureau du ministre et les cabinets ministériels. C'est, alors même si ça bouge, qu'il y a eu depuis Edith Cresson pas mal de délocalisations ou simplement de déménagements, mais il y a l'habitude que pas seulement le souverain, mais l'administration centrale, évidemment.
C'est les palais de la République.
Voilà, ouais. Les palais de la République, c'est pas seulement les ministres.
Il y a ceux de province, hein.
Il y a ceux de province, bien sûr, voilà. Bon, donc il y a peut-être un lien, si vous voulez, une certaine habitude, je sais pas comment dire, peut-être un truc anthropologique, un peu de cuisine que je suis en train de faire là, sur le fait qu'il y ait une représentativité socio-professionnelle qui est insuffisante.
Alors finalement, je suis assez étonné par la discussion de ce soir. Enfin, étonné et je suis content de l'être à ce point. Non, parce que je m'attendais finalement à ce que vous alliez peut-être les uns et les autres sur plutôt des mesures qu'il faudrait prendre pour justement que cette probité soit davantage respectée. Par exemple, en interdisant le fait de pouvoir embaucher sa famille. Ça fait partie des propositions qui sont aujourd'hui étudiées. On voit à quel point finalement, en posant cette question-là, on pose quand même vraiment la question de ce que représente la politique et de la façon dont elle est structurée, en particulier dans notre pays, Ludivine Mortini. C'est beaucoup plus large.
J'en suis vraiment fondamentalement convaincue. Et moi, j'aimerais en effet que, pas seulement ici, parce qu'on en parle assez largement, mais qu'on en parle de ces questions de fond, justement, de notre rapport aux politiques. Parce que quand, Philippe, vous dites que ces élus-là, pour partie corrompus, encore une fois, moi, c'est pas uniquement la question de la corruption qui me préoccupe. Hein. C'est vraiment, encore une fois, ce décalage. Mais vous dites qu'ils sont réélus, mais le problème, c'est que c'est aussi lié à ce spectacle politico-médiatique qui nous est infligé à longueur de journée. Et donc, on n'a pas le choix. D'abord, c'est quand même un système, notamment électoral, et qui ne nous laisse pas le choix. Vous imaginez, moi, par exemple, ma position. Voilà, donc, on va se retrouver avec Macron-Le Pen au deuxième tour. On va m'obliger à aller voter Macron. Ouais, c'est vraiment terrible. Je veux dire, je ne sais pas comment vous faire éprouver à quel point.
Non, je suis prêt à l'entendre.
Partage votre douleur, monsieur.
Non, je vous remercie de votre compassion. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup.
Il se passe des choses ce soir entre Brice Couture et Ludivine Mortini.
Vous avez d'autant plus raison que, par exemple, les élus de province, je ne parlais même pas de corruption, je parlais des gens qui avaient un train de vie excessif, déconnectés. Ces gens-là, généralement, n'ont pas de concurrent sérieux. Et les partis qu'ils représentent ne leur envoient jamais personne pour concurrencer leur impérium. Parce qu'on est bien content d'avoir un type qui tient la région, comme on dit, et on s'occupe beaucoup moins de savoir s'il se comporte bien.
Là, vous avez raison,
pour les lecteurs, on est souvent dans l'embarras, c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix de voter autrement.
Ce que vous avez dit à ce propos, bon, c'est assez subjectif, on pourrait dire quasiment la même chose, c'est-à-dire les gens, je ne sais pas trop, sont fiers de leurs élus riches, ou en tout cas qui ont un train de vie de sénateur, comme on dit. Enfin, mais je ne pense pas, je pense qu'on pourrait aussi faire le constat inverse, et on le voit bien aux réactions profondément indignées de l'affaire Fillon. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, ça nous pousse, encore une fois, à mettre sur le métier, des questions politiques du type, changeons nos manières, peut-être notre rapport tout simplement à l'idée du gouvernement. Voilà. Par exemple, encore une fois, chez les Zapatistes, nous avons tous été un moment ou un autre au gouvernement. Et donc, c'est comment chacun, et ça renvoie d'ailleurs pour partie à la discussion que vous aviez la semaine dernière dans le club, c'est-à-dire, quand on s'abstient, on est moins politisé que quand on vote? Non, moi, je pense qu'il y a beaucoup d'abstentionnistes qui sont très, très politisés et qui ont une autre vision du politique et qu'il faut défendre aussi.
Eh bien, vous nous offrez une transition toute trouvée pour terminer cette émission. Merci, Ludivine Brantini. Je vous signale que mercredi prochain, nous allons reconsacrer une émission sur l'abstention, avec notamment des chercheurs qui ont été cités vendredi dernier dans cette confrontation qui était assez tonique, hein, on va dire, le club de vendredi dernier, n'est-ce pas, Philippe Manière? Voilà, ce sera l'objet de notre émission de mercredi prochain, mais avant mercredi, il y aura bien sûr mardi et lundi. Lundi, Le Grain, à partir de 18h20, posera la question suivante: pourquoi y a-t-il encore des famines? Merci beaucoup, en tout cas à tous les quatre, d'avoir participé à cette discussion. Sylvain Kahn, Philippe Manière, Brice Couturier et Ludivine Bortini. Merci à toute l'équipe du Grain. Mélanie Chalandon, Céline Leclerc, Cyril Baer, Béatrice Dedieu, Louise Fuseau. Émission réalisée par Jean-Christophe Francis, avec à la prise de son Jean Frédérix.